Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée est la chanteuse Mélodie Gardot. Elle signe son grand retour avec un nouvel album intitulé Entre deux. Vous verrez qu'il y a un petit jeu de mots. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebret sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe.
Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour évidemment Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Comme tous les jours, Bruno, vous analysez ici les temps forts de l'actualité médiatique. Et ce matin, vous vouliez revenir sur une image, une photo prise pendant le jubilé de la reine d'Angleterre.
Oui, zoom ce matin, Philippe, sur une photographie qui a fait le tour du monde. Une image figée qui, et c'est assez rare, est beaucoup plus puissante qu'une vidéo en mouvement. Je vous raconte. L'image en question, c'est celle de la famille royale prise au balcon du palais de Buckingham. On y voit la reine Elisabeth en plein centre. Et France 2, jeudi dernier, a décrit ceux qui l'y entouraient.
Charles, Camilla, William, Kate et leurs enfants.
Voilà, c'est l'image d'une famille réunie et visiblement très heureuse, mais c'est surtout une image qui a été pensée, fabriquée et calibrée dans ses moindres détails par la famille royale qui sait parfaitement bien que c'est cette image-là qui paraîtra dans toute la presse.
Visage sérieux, Elisabeth II, commandant en chef des armées, observe ses troupes défiler.
Alors sur cette image, Philippe, tout est parfait. La reine est pimpante, le prince Charles est souriant, il s'adresse à sa belle-fille Kate, qui porte un chapeau qui ressemble à une auréole et qui lui donne donc des allures de sainte. William, lui, a le regard attendri du chef de famille qui contemple ses trois enfants merveilleusement rangés, du plus petit au plus grand. Bref, l'image est absolument impeccable. Impeccable à ceci près qu'un petit détail totalement imprévu va venir donner un relief tout à fait incongru à ce délicieux spectacle.
Dans le ciel, une belle formation aérienne pour les 70 ans de règne d'Elisabeth. Beaucoup trop bruyant pour les oreilles du petit Louis, 4 ans, qui offre aux spectateurs un festival de grimaces.
Eh oui, collé à la reine, au beau milieu de l'image, le plus petit de la bande, Louis, 4 ans, fait une grimace épouvantable. Il ferme les yeux, il se bouche les oreilles avec les mains et pousse un cri qui déforme totalement son doux visage princier. Bref, il devient donc en un éclair le héros de cet imprévisible dérapage. Mais en vidéo, l'image est extrêmement fugace, elle ne dure que 2 ou 3 secondes et à la télévision, les commentaires qui l'accompagnent ne sont guère plus longs.
Avec non, Louis qui se fait un peu gronder parce qu'il fait la tête quand même.
Du reste, à la télévision britannique, le réalisateur a très rapidement changé de plan pour ne plus montrer que les avions.
Some noise.
And some lovely interaction there between the Queen and Prince Louis. She seems to be explaining to him what's going on.
Sur la photo, en revanche, le temps est arrêté, figé, et c'est celui qui regarde l'image qui devient son propre réalisateur. Sur la photo, le spectateur peut ne regarder que le petit Louis, et ce, aussi longtemps qu'il le désire. Ainsi, ce qui n'était qu'un accident, qu'une toute petite péripétie vite reprise en main par une arrière-grand-mère aux aguets...
Oui, la reine a réussi à calmer la bouderie de son arrière-grand-mère. Oui.
Ce tout petit accroc devient la scène centrale, et il est alors possible d'interpréter la photographie exactement comme on le souhaite et non plus comme la famille royale aurait aimé nous l'imposer. Alors, personnellement, en découvrant ce petit bonhomme faire la gueule, puissance 1000 et se boucher les oreilles, j'ai repensé à un détail.
Au balcon, la famille royale se montre au complet cette fois. À l'exception de Harry et Meghan, présents mais relégués en coulisses.
Je me suis souvenu que dans cette famille prétendument idéale, eh bien c'était une famille comme les autres, qu'on avait dû s'y engueuler copieusement avant le jubilé, au moment d'écarter le couple d'enfants maudits.
Harry et Meghan n'ont pas été conviés sur le balcon, car ils ont renoncé à leurs fonctions au sein de la royauté.
Et je me suis mis à imaginer que si le petit Louis fermait les yeux et se bouchait les oreilles, c'était tout simplement parce qu'il en avait beaucoup trop vu, beaucoup trop entendu et qu'il en avait ras le diadème des engueulades monarchiques où l'on comprend, Philippe, qu'une belle grimace qui mériterait largement le prix de la grimace de platine, immortalisée par un simple appareil photo, peut s'avérer beaucoup plus puissante qu'une longue séquence de télévision.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain et on se retrouve tous sur ce plateau puisqu'on a tous en tête l'image du petit Louis. Héloïse Goy, votre indispensable du jour.
On quitte l'Angleterre, je vous emmène en Suède avec l'histoire d'un célèbre bandit des années 70 qui s'est rendu célèbre jusque dans les années 80. C'est un peu le Jack Mérine suédois. Il s'appelle Clark Olofsson et je vous assure que ses aventures méritaient bien une série.
Et j'ai la même question pour vous, Olivier Benkemoun, votre
Louis,
indispensable.
Louis, ça va être une teigne. Hein. Je vous le dis, ça va être une horreur. Hein. Ouais. Ce petit bonhomme. Vous voulez faire les mêmes grimaces que Louis, ouais. Allez voir Jurassic World, le monde d'après. Je vous en parle tout à l'heure.
Le dinosaure.
Mais comment il sait vendre ces trucs, ce Benkemoun. Dans un instant, on va parler musique, plus précisément du dernier album de Mélanie Gardot. La jazzwoman, la chanteuse, sera avec nous en studio. Mais avant de l'accueillir, on va justement écouter le nouveau single tiré de cet album. Si vous avez le CD, c'est la 1. This Foolish Heart Could Love You sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Mélanie Gardot.
Bonjour.
Tellement content de vous recevoir. Vous êtes chanteuse de jazz à la voix de velours, on vient de l'entendre, vue comme une diva par vos fans. Il y en a dans le monde entier. Vous êtes américaine, vous êtes souvent posée à Paris, on va en parler, notamment pendant le confinement. Et si j'ai bien compris, c'est ce qui a vu la création de votre dernier album. Il s'appelle Entre eux deux, pas Entre deux, mais Entre eux deux, avec le pianiste brésilien Philip Powell. On vient d'entendre This Foolish Heart Could Love You. Cet album est un projet unique. Racontez le projet, comment avez-vous travaillé ensemble?
Well, c'était une petit challenge en fait, où j'ai proposé à Philippe si jamais il veut faire un album avec moi. Il a dit oui, mais en fait il savait pas que ce sera demain presque.
Ouais.
C'était juste un concept. Et finalement, j'ai lui appelé, j'ai lui texté, il faut que c'est là maintenant. On va lui donner 2 semaines pour écrire un album.
Et, 2 semaines, c'est très court.
Oui, mais le concept était un peu plus facile que ce que je fais d'habitude parce que j'ai une partenaire. J'ai eu confiance, inspirée un peu par l'album Nights in Tijuana, ou Tijuana Nights, pardon, de Charlie Mingus, où en fait, nous, on se positionne comme des observateurs qui regardent le monde. On a une studio qui donne à Paris et on a décidé de regarder Paris et donner un album dédié à cette connexion qu'on a nous-mêmes. Alors, c'est Un Love Letter to Paris est quand même un rencontre entre 2 artistes qui fait la connexion franco-brésilienne.
Ouais, mais les chansons étaient écrites ou vous les avez écrites et composées ensemble? Comment ça s'est passé, la composition des chansons et l'écriture des textes?
Ouais, c'était intéressant. Parfois, c'était comme on claque de doigts. Je me souviens de This Foolish Heart Could Love You qu'on vient d'entendre là. C'est Philippe qui a eu une composition qui était une mélodie. Il m'a montré. J'ai adoré et j'ai dû sortir mes 2 chiens. Alors, j'ai 2 chihuahuas, j'ai baladé, j'ai eu les mélodies en tête, j'ai chanté. Je suis allée même aux pharmacies. 2-3 blocks. Je reviens, je frappe la porte, il ouvre la porte et il dit « I got it ». Et je suis allée à côté de lui et je lui dis tout ce que j'ai eu en tête et c'était écrit.
Et vous avez écrit la chanson comme ça en quelques secondes?
Ouais,
en quelques minutes.
Quelques balades et quelques chiens.
Mais alors, on n'imagine pas la scène, on pense à des scènes de studio genre One Plus One filmées par Godard avec les Rolling Stones. Vous dites, c'était du 24h sur 24, parfois des idées de folie, arrivées à 4h du matin.
Ouais.
Vous étiez comment avec des lits de camp dans le studio? Comment vous avez travaillé?
Bah, c'était parce que dans le studio, il avait 2 chambres. Alors, il a eu sa chambre, j'ai eu les miens. Et dès qu'on se réveille, on se trouve à table et il y avait des papiers partout. Moi, j'ai un système de post-it notes où je mets les trucs toujours comme ça pour regarder mes pensées, etc. Alors, j'ai mis le projet comme ça. J'ai dit, ce titre est cool. OK, on va faire ça. Il nous manque une chanson pour ça. Et on a eu une cadre. C'était un dessin que j'avais fait d'une corde d'une femme que j'ai totalement couvert
en post-it.
Et d'ailleurs, il y a un mini-clip de ça sur YouTube parce qu'on a invité quelqu'un de filmer pendant le travail. Mm-hmm. Alors, il y a une mini-fenêtre de ça, juste images et musique qui montre exactement comment c'était. Il y avait pas mal de cendres parce que j'ai dû admettre que je fumais parfois. J'ai eu une idée qui était plus importante que mettre les cendres correctement dans le cendrier. Donc, il y avait des choses partout.
On n'a pas encore dit qui est Philip Powell.
Ah, Philippe, alors. Philippe, il est le fils de le musicien et compositeur Baden Powell, qui, si vous voulez, c'est un mec qui était parti de le Rat Pack du Brésil.
Ouais. Vous voyez, grand musicien brésilien, son papa, Baden Powell. Je précise juste qu'il est homonyme avec Baden Powell, le fondateur du scoutisme, mais rien à voir. C'est juste un homonyme. Et donc, Philippe est le fils de Baden Powell brésilien.
Et si vous voulez, en fait, Baden, c'est le parrain de Afro Samba. Il avait écrit une chanson, plusieurs. D'ailleurs, mais il avait écrit une chanson très très connue qui s'appelle Berimbau, qui a fait une explosion totale de Afro Samba et ce genre de musique. Si vous voulez, il avait 4 musiciens au Brésil à l'époque. Il était parti de C4, c'est pour ça que je dis parti du Rat Pack.
Et comment la connexion s'est faite avec Philip Powell? Vous ne le connaissiez pas plus que ça? Si je suis bien informé, on est une émission média. Et vous l'aviez rencontré, vous avez eu l'idée sur le plateau de Laurent Delahousse sur France 2, c'est ça?
Yes, en fait, mais j'allais lui raconter juste avant. En fait, il était une personne, une musicienne dans le crew, parce que dans le monde qu'on a autour de nous, il y a toujours des musiciens, des compositeurs, nanana. Alors on a croisé à l'Olympia, voilà, tiens, c'est Philippe. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé l'idée de faire un truc, parce que c'est juste comme ça, vous croisez quelqu'un et voilà. Mais quand on a eu le Covid, j'étais obligée de construire un groupe à Paris parce que mes musiciens d'habitude ne pouvaient pas voyager.
Bien sûr.
Alors j'ai cherché des bons musiciens à Paris. J'ai trouvé Philippe. C'était aussi le moment que j'ai dû terminer mon album. Et j'avais décidé d'enregistrer sur Sunset in the Blue, l'album précédent, un de ses chansons qui s'appelle There Where He Lives in Me. En portugais, c'est là onde ele mora em mim. Alors l'histoire chronique, c'est un peu messed up là, comme j'ai raconté.
Ouais.
Mais il y avait cette chanson, on a croisé, puis j'ai dit ok, tiens, viens, on va faire la musique ensemble. J'étais chez Delahousse, on a fait les chansons, c'est magnifique parce qu'il chante, il joue. Et
chez Delahousse, c'était le studio, vous n'étiez pas chez Laurent, oui. Delahousse personnellement.
Non, le studio, pardon. et j'ai vu son visage sur l'écran, là. C'est difficile à expliquer exactement l'émotion qu'il a eue, mais c'était une sorte de poise si élégant, si dedans, un moment suspendu. Et j'ai flotté dans la musique. C'est pas comme un truc qui arrive normalement sur la télé. Vous êtes nerveuse, vous êtes là, vous êtes organisée, etc. C'est do your job, 2 minutes, go home, bada bing, bada boom. Là, c'était une autre chose. Et j'ai eu ce moment suspendu et je voudrais le prolonger. Et j'ai eu une flash. Et c'était juste. Moi, j'ai vraiment envie de faire un album. Alors, c'était dans le green room de Laurent Delahousse que j'ai proposé. Si jamais il veut faire un album avec moi, il a dit ouais.
Il a dit oui. Voilà ce qui s'est passé avant l'album. Mais que s'est-il passé avant que Mélodie Gardot soit célèbre? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de la chanteuse Mélodie Gardot, on parle de son album, son nouvel album Entre eux deux, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Mélodie Gardot.
Bonjour.
On dit de vous que vous êtes une déesse du jazz, vous avez envoûté le public avec votre voix de velours depuis 14 ans, vous vous êtes produite plus de 20 fois à l'Olympia, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mélodie Gardot, vous êtes née et vous avez grandi aux États-Unis. Et votre prénom, Mélodie, qui semble aujourd'hui prédestiné, votre maman l'a choisi parce que lorsqu'elle était enceinte, c'est la musique qui calmait les coups que vous lui donniez, c'est ça?
Exactement. Et en plus, la vraie histoire, c'est qu'elle a attendu un garçon. Alors, le jour que j'étais née, j'étais censée être, je ne sais pas quoi, genre Michael, je ne sais pas quoi. Et le médecin, il a dit, tiens, madame, vous avez une très jolie fille. Et elle n'était pas prête. Alors, mon nom est arrivé 7 ou 8 jours plus tard. Elle a dû réfléchir. J'étais nameless.
Sans nom. C'est également votre maman qui vous donne le goût de la musique classique, Chopin, Mozart d'abord, mais aussi de tous les genres de musique. Elle vous fait écouter, par exemple, Carole King.
C'est ma mère, ça.
Elle vous fait aussi écouter Joni Mitchell. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone.
It pays paradise, put up a parking lot. Ça vous fait toujours sourire, ça vous fait toujours de l'effet.
Ça me donne en fait envie maintenant de faire une playlist pour ma mère et refaire un road trip cet été, un truc comme ça. Tout de suite, j'ai eu un sentiment de... I miss you, mama. You know, I want to have some good grooves in the car.
Ah. Elle dit qu'elle fait une playlist pour partir en voiture, vacances, avoir du bon groove dans la voiture. Elle dit, maman, tu me manques. Je traduis pour qui ne parlerait pas anglais.
Autre inspiration de votre enfance, Mélodie Gardot. Là, ça vient plutôt de votre grand-mère. C'est le film Le Magicien d'Oz et la voix de Judy Garland.
Over the rainbow. Alors ça, c'est dingue.
Pourquoi?
Parce que ma grand-mère, je ne sais pas si c'était le plaisir ou la torture, en fait, mais pour amuser un enfant, elle a mis une VHS au télévision, comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait un seul, et c'était 7 films. Alors, c'était une boucle. Chaque fois que je suis avec ma grand-mère, 7 films, c'est comme un truc de délire.
Je comprends très bien.
But as a kid, you know, you're like, yeah, let's see it again. Alors, je sais pas combien de fois j'ai vu lorsque le VHS il était cassé, quoi. Mais c'est ça qui a m'inspiré de chanter les chansons Somewhere Over the Rainbow un peu plus tard.
Enfant Mélodie Gardot, pour Noël, vous ne demandez pas de cadeaux, vous cuisinez des gâteaux que vous vendez à l'école et avec l'argent, vous allez acheter des jouets pour les enfants défavorisés du quartier. Mmh. Pourtant, vous vivez plutôt modestement. Un jour, pour aider votre maman, vous avez même fait le tour du quartier pour apporter à manger à la maison.
Ah, mais ça.
Et ça avait beaucoup, beaucoup contrarié votre maman.
À raconter.
Plus que ça, le fan d'histoire, bon, le racine d'histoire est triste parce que ça montre le fait qu'on n'a pas eu à manger. Mais j'étais entre 3 et 4 ans, un truc comme ça. Je pars de la maison, je disparais. Ma mère, elle est confuse. Et je reviens, je ne sais pas combien de temps plus tard, avec un panier, presque la taille du mois, que je fais comme ça, comme une grande valise, remplie avec la nourriture, parce que je suis allée claquer la porte de tous les voisins en demandant quelque chose à manger, parce qu'il n'y avait rien dans la maison.
Mon Dieu.
Et j'ai dit, maman, j'ai la nourriture, tiens. Elle a dit, mais t'as parti où? Ah, mon chou. Tu vois, mais on a... ouais, humble beginnings, on dit en anglais.
Début humble.
Mélodie Gardot, vous êtes donc une petite fille douce et déjà très attentive aux autres. Et vous cultivez, depuis toute petite, une véritable fascination pour notre douce France.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Vous êtes un peu une Émilie in Paris avant l'heure, fascinée et attirée.
Sans le veste courage.
À partir de votre adolescence, vous commencez à vous produire dans des bars à Philadelphie. Pourtant, vous entamez des études et vous vous destinez plutôt aux arts graphiques, au stylisme, mais pas à la musique. Vous aimez l'art. Vous passez d'ailleurs beaucoup de temps au musée Rodin de Philadelphie, ouais, sans savoir qu'il y en a un en France, à Paris.
Oui, mais cet secteur à Philadelphie, en fait, est très intéressant parce que les architectes qui sont venus pour construire le musée Rodin, et puis aussi le boulevard qui donne le City Hall, jusque le musée de l'art, qui n'est pas le musée Rodin, mais le musée de l'art, lequel fameux, très connu, qu'on voit dans les films de Rocky quand il monte les escaliers. Et c'était modelé avec cet esprit des Champs-Élysées. Alors, c'est called the Champs-Élysées de Philadelphie, en fait.
Mais à l'âge de 19 ans, alors que vous êtes à vélo, vous vous faites renverser par un 4x4, vous êtes gravement blessé. Les médecins vous disent même que vous ne pourrez plus marcher. Vous passez plus d'un an à l'hôpital et un médecin recommande à votre maman la musicothérapie. Elle vous apporte alors une guitare dans votre chambre d'hôpital et vous allez surmonter cette épreuve grâce à la musique, Mélodie Gardot.
Mmh. Ça, c'était, et c'est encore une sorte de miracle, parce que maintenant, je bosse avec plein de gens qui ont ce type de problème de cerveau, etc. Après des graves accidents, c'est un problème typique d'un impact si fort. Mais ce n'est pas toujours certain qu'on va sortir de cet état. Ouais. Alors, j'ai eu une forte chance et je suis au courant de ça. Et c'est vraiment surprenant que quelque chose qui était censé être médicale à la base, devenue la raison pour laquelle je vous parlais aujourd'hui.
Votre impressionnante volonté de vous en sortir par la musique paye, cette musique, celle qui vous a aidé à guérir, vous décidez de la partager sur MySpace, à un concert caritatif, sur une radio locale. Vous sortez d'ailleurs d'abord un EP, vous êtes alors repéré par une maison de disques et suit un premier album en 2008. Votre carrière démarre partout dans le monde et chez nous en France, vous venez donner un premier concert au Divan du Monde, chez Madame Arthur que vous découvrez.
En fait, à l'époque, je ne savais pas que Madame Arthur était là, mais depuis j'ai vu que c'était juste à côté. En fait, c'était la semaine dernière, je suis allée visiter Madame Arthur parce que j'adore ce cabaret. Et j'étais obligée de retracer mes pas originaux, si tu veux, au Divan du Monde. Et c'était bizarre parce que j'avais presque oublié, et c'est la première fois que je suis allée encore depuis ce moment. Et cette première concert, plein de choses est arrivées. J'étais une col orange et une petite truc à la Marseille, chemise avec des stripes, un petit beret, des trucs. On a...
Très française.
It was, mais j'ai même pas pensé, c'était juste ce que j'ai eu de Wolford, une sorte de body, quoi. Mais j'ai eu une bonne souvenir et c'est toujours important ça, de revoir ce que vous avez vu il y a longtemps et ressentir, etc. Et d'aller maintenant à côté pour Madame Arthur, qui est un cabaret fabuleux. Qu'est-ce que je trouve, mais les gens absolument just fantastic, you know, dedans. Et puis, une danseuse burlesque qui vient me voir après, elle dit, je suis super fan de toi et en fait, merci parce que ta musique était lequel qui a m'inspiré de faire ça. Et j'ai dansé ma première danse burlesque à cette chanson. Nanana. Alors j'ai très envie, si jamais on peut faire, ils ont proposé l'idée, dans l'éventualité, de faire une soirée Gardot, Berlesque, Madame Arthur. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est là où j'ai commencé à Paris.
Puis vous sortez My One and Only Thrill, un second album qui fait éclater au grand jour votre talent. Vous faites votre premier Olympia, le premier d'une longue série de concerts dans cette salle mythique. Une étoile est née, Mélodie Gardot, votre voix unique, sensuelle, à l'exquise douceur, va toucher le public droit au cœur. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup Lisa, Marie, Marquez. Je vous dis à demain, vous restez avec nous. Mélodie Gardon a parlé de cinéma dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Mélodie Gardon, Entre deux, c'est un disque à quatre mains avec Phil Powell. Ils ont enregistré, joué, lui est au piano, elle, elle chante. Et vous avez écrit les textes, la musique ensemble, le son fabriqué ensemble, album fabriqué en 15 jours complets, 24h sur 24. Vous allez au cinéma, Mélodie Gardon, ou est-ce qu'à cause du fait que vous êtes très très sensible, ce que nous disait Lisa Marie Marquez, au son, aux images fortes, vous choisissez bien les films?
Ça dépend, c'est plutôt une question de ton. En fait, j'adore les cinémas. Le dernier que j'ai vu, c'était Un homme et une femme, Club 13. Louche, là, à côté
Champs-Élysées. Et le Club 13, c'est son cinéma, lui.
Exact. J'ai vu les deux back-to-back.
Ouais.
Et aussi, raison pour laquelle qu'on a fait Plus fort que nous, comme un clin d'œil. Il y avait le papa de Philippe, en fait, dans le bain de son originaux. Mm-hmm. Dans ça, c'est fou.
Dans la bande son originale de
Exact, c'est ce que je veux dire. Ouais. Merci de m'aider. Mais sinon, avant ça, le dernier que j'ai vu, c'était le film où Miles Davis... Il a écrit le soundtrack, It's Something, Chauffaudage, L'ascenseur.
Ascenseur pour l'échafaud.
That's it. Yeah. Film
de, Thank you. De mémoire, Sorry. C'est Louis Malle.
Mm-hmm. Dans un vieil cinémathèque à Paris. Mm-hmm. J'adore ces endroits.
On va faire une petite mise à jour.
Ouais. Hein. Olivier Benkemoun, on a parlé de cinéma avec vous, mais là, c'est, on n'est pas dans le noir et blanc, on est en couleur. Jurassic World, c'est de la couleur déjà.
Attendez, c'est le son et l'image, c'est ce qui vous plaît. Ouais. Le son et l'image, donc voilà. Jurassic World, le monde d'après. On n'est pas dans Le Magicien d'Oz, on n'est pas dans L'Ascenseur pour l'échafaud, non. Le monde d'après, d'abord, expression qu'on a mis à peu près à toutes les sauces pendant la Covid en France. Alors pourquoi pas pour la saga jurassique? Ouais, ça fait c'est John Williams, hein, la musique. Le monde d'après, c'est l'épisode 3 de la partie 2 de la saga Jurassic. On rappelle, parce que vous avez l'air de ne pas avoir très bien suivi. Partie 1, Jurassic Park, entre 1993 et 2001, 3 films. Partie 2, Jurassic World, entre 2015 et 2022. Et le troisième film sort cette semaine. Ça suit ou pas?
Moi j'ai les notes, donc c'est facile pour moi.
Ce sixième film démarre lorsque les dinos, parce qu'il s'agit de dinosaures, hein, se sont tous échappés de l'île où l'on venait les voir dans les précédents épisodes. Faut dire que les histoires d'îles, de parcs à thème, tout ça a très mal tourné. Ça a coûté des milliards, ça n'a pas empêché des accidents graves. Désormais, les dinos cohabitent avec nous.
Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique.
N'ayez pas peur, c'est du cinéma, Mélodie Gardot. Enfin, ça cohabite assez mal, faut bien le dire. Car les bestioles géantes du Jurassique ont tendance à ne pas respecter grand-chose de notre environnement et de notre architecture, sont souvent agressives et surtout pensent bêtement que l'humain est une nourriture comme les autres, ce qui parfois nécessite une piqûre de rappel.
Règle numéro 1. Ne prenez pas de selfies avec les dinosaures. Même si certains d'entre eux sont herbivores, ne les confondez pas avec des pandas.
Je vais une parenthèse. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jurassic World et de Jurassic Park.
Faut parler de moi ou
de Mélodie Gardot?
Non, c'est juste que vous parlez un peu vite pour
moi. J'allais dire saleté de raptor.
Mais après, j'ai chopé exactement ce que c'était. Ouais. Bon. J'ai dû admettre, je pense que j'ai vu le premier, mais là, le but c'est qu'il sort un autre. C'est re-edition.
Non, sixième. Sixième.
C'est le sixième.
Il est question aujourd'hui non plus de mettre les bestioles qui étaient dans les parcs à votre époque, mais c'est plus du tout la mode. Il faut les mettre dans des zones protégées. C'est ce qu'organise un milliardaire qui ressemble à Steve Jobs physiquement. Vous vous souvenez, l'ancien patron d'Apple, milliardaire à la philanthropie.
Steve Jobs ou Tiger King, je ne suis pas sûr.
Milliardaire à la philanthropie apparente, mais avec des labos secrets qui carburent en modifiant l'ADN.
Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros?
Ça, c'est le petit gonflement du giganotosaure, un nouveau dans la saga. Parce qu'évidemment, il y a tout ce que le public attend. Des tas de nouvelles bestioles encore plus méchantes, encore plus prédatrices et rapides, qui courent et qui volent après des héros qui sont à moto, en avion. On les retrouve sur les toits, dans les souterrains, dans les bases secrètes. En fait, pour les scénaristes, le fait de pouvoir sortir l'histoire du parc ou de la réserve permet plus d'aventures et surtout des clins d'œil à la fois aux poursuites de James Bond, à celles d'Indiana Jones, avec même des pointes d'humour.
Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui, pourquoi ?
Bon, c'est de l'humour américain. Maintenant, je vous révèle la vraie originalité du film. Être allé chercher tous les comédiens qui ont parcouru la saga depuis 30 ans, Laura Dern et Sam Neill, les paléontologues qui étaient dans le premier parc en 93, ceux que vous avez vus, avec Jeff Goldblum, qui jouait les scientifiques et lanceurs d'alerte. Et puis, on va retrouver les héros des deux précédents épisodes, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et même Omar Sy.
Au dernier moment, tu plonges.
Je sais pas plonger.
Tu vas y arriver.
J'ai jamais le bon timing.
Alors, est-ce que Omar Sy va se faire croquer ? Eh ben, vous le saurez demain.
Merci, Olivier Benkeboun. Vous le conseillez, le film, ou pas, au final ? Il sait même plus.
En vrai, j'en peux plus de ces machins de Jurassic, tout ça. Mais j'aime, mais j'aime bien vous le raconter.
Le gars qui craque en direct.
Mais j'aime bien vous le raconter.
Le coming out. Le coming out. J'avais jamais vu ça encore. Olivier Benkeboun, merci beaucoup. Bonne cure de sommeil. On vous voit très très vite. Vous restez avec nous. Mélodie Gardot, on va parler d'une série avec Héloïse Goy, tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blandel.
Entre deux, c'est entre deux, Philippe Howell et Mélodie Gardot. Mélodie Gardot, c'est notre invitée. Disque enregistré après, en tout cas à cause du confinement, du Covid. Vous avez connu le Covid, Mélodie Gardot, donc vous avez connu Netflix.
Ah oui.
Justement, on parlait de série avec vous, Héloïse Goy. Aujourd'hui, une série consacrée à un bandit suédois.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Mélodie Gardot. Je suppose que vous deux, vous savez à peu près ce qu'est le syndrome de Stockholm. Je ne vous le réexplique pas, mais est-ce que vous savez précisément quelle est l'histoire qui a donné le nom à ce phénomène ?
Pas du tout. Un peu, mais je ne veux pas vous spoiler.
Philippe, vous savez tout de toute
C'était
façon.
C'était une vraie histoire à Stockholm.
Eh oui, ça remonte à un hold-up dans une banque à Stockholm en 1973. Quatre employés sont pris en otage par deux évadés de prison. Parmi ces braqueurs, il y a un certain Clark Olofsson qui va faire la fête pendant 6 jours avec ses prisonniers.
Bien chérie, puisqu'on est là, on ferait aussi bien de se marrer. Et les autres aussi.
Allez, venez.
C'est ça. Faites pas les timides.
Cette scène a réellement eu lieu, hein, pendant le braquage, devant des policiers négociateurs effarés qui entendaient que les otages se prêtaient volontiers au jeu de Clark. Otages qui ont même refusé d'être libérés à la fin tant ils tenaient à Clark. Et ils ont aussi refusé de porter plainte contre lui. Donc, et c'est justement de ce ravisseur dont je vous parle aujourd'hui avec cette série suédoise qui s'appelle tout simplement Clark. Série créée par Jonas Åkerlund. Jonas Åkerlund qui est un des plus grands réalisateurs de clips musicaux au monde. Il a travaillé entre autres pour Madonna, pour Lady Gaga, Rammstein ou encore Metallica. Il est connu pour ses clips fantaisistes qui ressemblent à des courts-métrages et des vrais petits bijoux. Et cette fois, c'est donc au service de Clark Olofsson que ce réalisateur suédois a mis ses talents. Et il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce bandit qui se définit comme un mélange entre Fifi Brin d'Acier et Al Capone. Sympa, le petit mix. Et puis comme tout bon voyou qui se respecte, eh bien Clark a un ego plutôt surdimensionné.
Je suis un braqueur de banque de renommée internationale. C'est à cause de moi qu'on parle du syndrome de Stockholm. Putain, ils auraient dû appeler ça le syndrome Clark Olofsson.
Alors, comme c'est une série, ça dure, il raconte pas que le braquage et que cette scène dans la banque.
Non mais il pourrait, parce qu'il y a des choses à dire sur ce braquage. Mais non, la série nous raconte toute la vie de Clark depuis son enfance. On apprend par exemple qu'à 10 ans, Clark gagnait plus d'argent que ses deux parents réunis en revendant tout plein d'objets volés. Philippe, je sais que vous aimez les histoires folles mais vraies.
Alors, j'adore quand c'est vrai.
Eh bah oui, bah ici vous allez être servi. Même si on nous prévient dès le premier épisode, la série est basée sur des faits et des mensonges parce qu'elle est inspirée de l'autobiographie fantasque de Clark. Et Clark, eh bien, c'est le roi des mensonges, hein. Il roule tout le monde dans la farine. Ah. Et c'est pour ça qu'il arrive toujours à ses fins, y compris avec les femmes qu'il adore. Il tombe amoureux d'une femme différente à peu près chaque jour. Faut le savoir, ça c'est vraiment raconté dans la série. Alors j'ai pas le temps de vous raconter tous ces braquages, toutes ces rencontres plus ou moins heureuses, tous ces séjours en prison, mais son mantra résume plutôt bien sa détermination.
Si je pouvais pas être le meilleur à être le meilleur, j'allais être le meilleur à être le pire.
Et ça, on peut pas lui retirer. Hein. Clark se donne beaucoup de mal pour être le meilleur à être le pire. Et du coup, on ne s'ennuie pas une seconde dans cette série qui file à 1000 à l'heure, qui joue beaucoup avec les codes de la BD. Il y a des incrustations de dessins pop. C'est souvent très drôle. Et alors, même si on peut penser que c'est contestable de dresser un portrait aussi flatteur d'un tel voyou, il a tout de même passé plus de la moitié de sa vie en prison. Hein. C'est pas un enfant de cœur. Eh bien, je dois avouer qu'on est assez bluffé par le charisme hors norme de cet homme. En gros, vous l'avez compris, Clark Olofsson, c'est vraiment le Jacques Mérine à la suédois. C'est à la fois un héros national et un homme à abattre. Sauf que contrairement à Jack Mérine, Clark Olofsson n'a jamais tué personne. Il n'a pas été abattu. Il est toujours vivant. Il a 75 ans aujourd'hui.
Oh, wow.
Et il n'est sorti de prison qu'en 2018. Peut-être qu'il nous réserve encore de nouvelles aventures. Qui sait ?
Alors la série s'appelle donc Clark. Où est-ce qu'on peut la voir ?
Eh bien c'est sur Netflix. Vous avez Netflix, Mélodie Gardot. Et en tout, c'est 6 épisodes d'environ 1 heure.
Vous êtes fan de série, Mélodie Gardot ?
Oui, ça m'a fait penser en fait, un peu de Casa del Papel.
Ah, ouais. Un petit peu.
Un peu feeling comme ça. Que j'ai beaucoup aimé aussi.
On est d'accord. Merci beaucoup Héloïse Goua. C'est la dernière ligne droite de Culture Média. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Ça, c'est Little Something, duo que vous avez fait, Mélodie Gardot qui est notre invitée avec Sting. C'était à sa demande. J'ai adoré la réponse que vous lui avez faite quand il vous a demandé de chanter avec lui. Racontez ce que vous lui avez dit.
Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que vous avez lu ?
Vous lui avez dit, pourquoi pas chanter qu'une chanteuse pop plus connue, par exemple Ariana Grande ?
Oh, non, j'ai pas répondu ça à Sting. Ah. J'ai répondu ça à le producteur.
Ah.
En fait, parce que le producteur, il s'appelle Gengis et il m'a proposé l'idée, un concept au tout début, bien avant que j'ai entendu les chansons.
Ouais.
Il a raconté ses rêves et quand il a dit nanana, je voudrais vraiment qu'il ait un tube, il a un succès. Et j'ai trouvé que c'était dommage qu'il m'appelle quand il peut avoir quelqu'un d'autre.
C'est énorme de répondre ça. Il y a des concerts qui sont annoncés. Il y a une grosse, grosse tournée de festival, notamment à Fontainebleau. Ça sera le 24 juin. Normalement, il devrait y avoir, si je suis bien informé, Julia Vignali qui sera dans les parages. Vous serez à Niort, vous serez à Chantilly au festival TSF,
Nice.
À Montélimar-Aglo. Nice Jazz Festival, c'est le 18 juillet. Jazz à l'Hospitalet, le 19 juillet à Perpignan. Jazz à Marcillac, immense festival de jazz, le 24 juillet. Et vous allez faire l'Olympia les 21, 22, 23 novembre. Pourquoi j'en parle ? Parce que là encore, j'espère être bien informé, vous avez dit quelque chose d'inédit. Vous ne voudriez pas avoir votre nom en gros sur la devanture, comme ça se fait, mais vous voudriez qu'on écrit le nom de quelqu'un d'autre. Vous voudriez écrire « Merci Gérard ».
Ouais.
Racontez, c'est juste fou.
Sans pleurer alors. Gérard Drou était mon producteur, un peu comme mon papa, si vous voulez, dans cette business. Et... quelqu'un pour lequel, c'est la raison pour laquelle on a eu la possibilité de faire l'Olympia d'ailleurs. Parce ouais. qu'après les Divans du Monde, il m'a parlé, il dit le prochain concert, ce sera l'Olympia. Et personne ne lui croit que ça peut être possible, mais il a battu pour. Il était toujours là. C'était beaucoup plus qu'un producteur, c'était un ami.
Ouais.
On a passé des moments ensemble, des Noëls ensemble, des vacances, des trucs. C'était quelqu'un qui me guidait. Et malheureusement, son chemin a été coupé un peu court le janvier dernier.
Ouais.
Et. Moi, je trouve que c'est important. Alors, si jamais les gens y passent, ils demandent qui c'est Gérard. Voilà la réponse.
C'est Gérard Drou.
Oui, et je veux vraiment faire ça. Alors, je n'ai pas demandé les permissions, mais je demande là maintenant de tous ces gens à l'Olympia, live sur la radio, s'il te plaît, oublie mon nom.
Extraordinaire. Vous aviez 23 ans, il vous a dit que tu seras une star. Vous l'avez cru à l'époque ?
Non. Et d'ailleurs, même pas maintenant.
Ah, vous n'êtes pas très, 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 très loin de la star quand même. Il faut bien dire ça. Je ne veux pas faire trop de compliments, mais quand même, il y a une expo de photos de Polaroid qui seront à la galerie La Une, à Paris également. On demande ça seulement à des stars. Quelle différence entre le milieu du jazz quand vous avez démarré et maintenant, Mélodie Gardot ?
Genre,
ça a beaucoup changé ou pas ?
Là où je suis ?
Non. Je vais vous dire le sens de ma question. On lui a demandé ce qui avait changé dans le jazz. Elle a dit cette réponse géniale. Elle a dit avant, dans le jazz, il y avait de l'héroïne et de la cocaïne à la folie.
Ah oui.
Maintenant, il y a des barres de granulés et des jus filtrés organiques.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est... ça donne plus envie de faire du jazz.
Ça, c'est totalement vrai. Mais c'est quelque chose. On a vu ça avec les grands jazzmen.
Ouais.
Et comme avec Charlie Hayden, on a parlé longtemps, Brad Meldow, tous ces gens. On a eu ça au début parce que c'est parti de la culture. Mais maintenant, on prend soin de nous. C'est un peu comme on essaie de prendre soin de la planète.
Mmh.
On se réveille et on essaie de faire mieux.
On essaye toujours de faire mieux. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des stars, justement, qui viennent rencontrer notre invité Mélodie Gardot. Et aujourd'hui, c'est François Hollande, l'ancien président, qui a une révélation à vous faire.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Dites, Madame Gardot, j'ai appris que vous êtes bouddhiste. Du coup, je suis étonné de voir que vous n'allumez pas un petit bâtonnet d'encens et que vous ne vous prosternez pas devant moi. Bah, un petit gros dégardi qui sourit tout le temps, ça vous rappelle personne ? Oui, Bouddha, c'est moi. Bon, moi, je suis plus sur un Bouddha aux pommes, mais sinon on y est. Et, namasté !
Une star qui vit aux États-Unis, qui est venue ce matin, c'est Jean-Claude Van Damme. Bonjour.
Bonjour, au revoir, hello, goodbye, je traduis, je suis bilingue. D'ailleurs, français, anglais, t'es bilingue, alors que français, ch'ti, t'es biloute. Entraînement. Alors moi, je suis passé voir Mélodie parce que, coïncidence de fou, elle a grandi à Philadelphie. Et moi aussi, j'ai grandi.
Hey.
Hey, à Bruxelles.
How you doing?
En plus, Philadelphie, si tu retires P-H-I-A-D-P-H-I et que tu rajoutes B-R-U-X-S, ça fait Bruxelles. Non, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. La drogue, c'est mal.
Oui. La drogue, c'est mal, on le disait. Vous avez repris la javanaise de Serge Gainsbourg avec lui et c'est André Manoukian qui est là pour vous. Salut André.
Oui, bonjour. C'est vrai que quand je parle, c'est fou. Bah, c'est comme quand je joue.
Elle est morte de rire.
C'est du jazz.
C'est trop beau, ça.
Non, mais c'est vrai, c'est du jazz. Moi, j'improvise et on ne comprend pas toujours. D'ailleurs, c'est moi qui ai écrit les teasers des émissions de Mélanie Gomez et Julia Vignali. Il paraît même que si vous écoutez leur émission à l'envers, vous pourrez entendre une délicieuse recette de soupe au chanvre. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer le teaser de ce matin de leur émission. Donc, ma vie est un échec. Et on recevra Manuel Valls en plateau pour en parler.
Ouais.
Un autre sujet qui concerne tout le monde et avec cette impression que, vous savez, parfois, personne ne vous aime. Du coup, Manuel Valls restera en plateau. Et enfin, notre conseil du jour, comment accuser discrètement un collègue quand on vient de lâcher une caisse. Bon, vous l'aurez compris, des sujets qui répondent aux besoins des Français.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci, à demain. Merci beaucoup, bravo. Mélodie Gardot qui applaudit. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler beaucoup de musique. D'abord, on va fêter les 20 ans de Mélodie TV avec ses créateurs, ses dirigeants, Bruno Lécluse et Jean-Pierre Pascolini. Vous connaissez Mélodie TV, cette chaîne de télé qui passe du vintage. J'ai appris que le vintage, c'était avant 2000, donc il y a beaucoup de vintage. On va aussi parler de deux magazines de niche absolument passionnant. Batteur Magazine, c'est pour Cadmeral, ils en sont au numéro 352.
Génial.
Et le magazine des pompiers, ça s'appelle Soldats du Feu.
Ça, c'est pour nous.
Ça marche tellement bien qu'ils font même un supplément Feu de Forêt pour cet été. Et puis Mathieu Chédid, il sera avec nous, il y aura même un live, l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'appelle Rivalité. Quel programme ? Alors maintenant, c'est à vous. Julia, Mélanie, bien fait pour vous.
Allez,
le programme
du jour.
Allez, aujourd'hui, on va se salir un peu les mains. Oh. On va les mettre dans la terre, en tout cas, puisqu'on va apprendre comment cultiver un potager. Que vous ayez même un petit balcon, une petite cour, pas nécessairement un jardin. On va vous donner des solutions pour tous.
Et puis, après avoir mis la main dans la terre, on va mettre la main dans les crèmes amincissantes et voir si elles marchent. Il y en a des tas sur le marché. Et puis, est-ce que certaines d'entre elles sont efficaces ? On va voir ça avec Adélaïde Robert, journaliste pour le magazine 60 millions de consommateurs. Et on terminera avec Anouk Garnier, notre coach sportive, pour des nouvelles tendances sportives venues des États-Unis.
Merci beaucoup, on vous écoute.
C'est
dis
moi qui
à
l'ai
demain. Ça se sent. Salut, bonne journée à l'écoute d'Europe.